l'écoute des RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Zéphirin Quadio présente avec moi cette édition. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, ce soir, le Venezuela sous tension à la veille de l'ultimatum lancé par Juan Guaido. Le président par intérim autoproclamé promet l'entrée d'ici demain de l'aide humanitaire bloquée à la frontière colombienne. Nous irons justement en Colombie dans ce journal.
La mort d'un des principaux chefs djihadistes au Sahel, l'Algérien Yahya Abou El Hammam. C'est la ministre française des armées qui l'annonce aujourd'hui.
Et puis le football avec le tirage au sort des huitièmes de finale de l'Europa League. Tirage très difficile pour Rennes qui affrontera les Anglais d'Arsenal.
Les journaux.
Le journal en français facile.
En français facile.
Et tout d'abord, la mort d'un des principaux chefs djihadistes au Sahel, la ministre des Armées l'a annoncé à la mi-journée, Loïc.
Il s'agit de l'Algérien Yahya Abou El Hammam, chef de l'émirat du Sahara d'Akmi Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'homme était le numéro 2 de l'alliance djihadiste dirigée par le Touareg malien Yadag Khali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Son corps a pu être formellement identifié selon le porte-parole adjoint de l'état-major de l'armée française, le colonel Guillaume Thomas.
Dans l'après-midi du 21 février, les forces armées françaises de l'opération Barkhane ont conduit une opération dans la région nord de Tombouctou. Une opération qui a été déclenchée suite à la détection de 3 véhicules au comportement suspect qu'il a été décidé d'intercepter. Il se trouve que lorsque les commandos sont arrivés sur place, ils ont essuyé le feu des occupants des véhicules qui, à leur tour, ont été neutralisés par l'hélicoptère qui est en appui. C'est donc une combinaison de moyens motorisés et héliportés, appuyés par un drone Reaper, qui ont permis de mener cette action d'opportunité. C'est quelqu'un de très important dans la mesure où c'est un des plus hauts responsables de l'organisation terroriste, le RVIM. C'est un des principaux adjoints de Yad Ag-Ghali. Pour nous, c'est effectivement quelqu'un qui est très important. En tout cas, c'est le responsable de nombreuses attaques contre les différents pays du Sahel. En tout cas, c'est sûr que c'est un revers majeur pour le groupe dirigé par Yad Ghali, puisque je le rappelle qu'en l'espace d'une année, il aura vu disparaître ses 3 principaux adjoints.
Le colonel Guillaume Thomas, porte-parole adjoint de l'état-major de l'armée française. Cette annonce intervient le jour de l'arrivée au Mali du Premier ministre Édouard Philippe, qui est accompagné de Florence Parly, la ministre des Armées, et du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. A noter en revanche que des vérifications sont toujours en cours pour établir si un autre djihadiste français, Fabien Klein en l'occurrence, a bien été tué en Syrie cette semaine dans une frappe de la coalition. L'information n'est pour l'heure pas confirmée, indiquait aujourd'hui Florence Parly.
L'actualité africaine encore et cette annonce des autorités américaines, elle concerne des responsables de la dernière présidentielle en République démocratique du Congo.
Oui, notamment le chef de la commission électorale, le juge qui a validé les résultats de l'élection. Il est désormais interdit d'entrer sur le territoire américain. Le communiqué du département d'État américain précise qu'il s'est, je cite, enrichi personnellement par l'usage de la corruption. Fin de citation.
Voilà une également la situation au Venezuela à la veille de la fin de l'ultimatum lancé par Juan Guaido.
Le président par intérim autoproclamé a promis que l'aide humanitaire qui est bloquée depuis 2 semaines à la frontière avec la Colombie, eh bien que cette aide arrivera bien demain samedi, quoi qu'il arrive. Justement, en Colombie, un grand concert de soutien est organisé ce soir dans la ville frontière de Cúcuta sur le pont Tienditas, un pont aujourd'hui fermé qui relie la Colombie au Venezuela. L'objectif, c'est de récolter des fonds pour le Venezuela, mais aussi et surtout de recruter des volontaires pour parvenir à faire entrer cette aide humanitaire du côté vénézuélien. Marie Normand est l'envoyée spéciale des RFI à Cúcuta.
Plusieurs stars de la scène internationale vont se produire ici sur la frontière entre la Colombie et le Venezuela pendant au moins 7 heures. Carlos Vives, Luis Fonsi, Nacho, Juanes. On a aperçu tout à l'heure l'organisateur Richard Branson juste à côté de la scène. Le président colombien Duque et son homologue chilien Sebastián Piñera sont aussi annoncés. Et Luis Almagro également, le président de l'Organisation des États américains. Beaucoup, beaucoup de spectateurs ici sous un soleil de plomb. De nombreuses personnes viennent vêtues aux couleurs du drapeau vénézuélien. Vénézuéliens, casquettes, chemises, voire même enroulés dans un drapeau, le tout dans une ambiance de fête. Certains vivent ici à Cúcuta ou dans la région, d'autres sont venus spécialement de l'autre côté de la frontière du Venezuela. Leur idée, c'est de profiter du concert, mais aussi après de rester dormir sur place pour prêter main forte demain aux troupes de volontaires. À l'appel de l'opposition vénézuélienne, ils veulent utiliser tous les points de passage possibles entre les deux pays pour transporter samedi l'aide humanitaire stockée ici sur le pont Tienditas de l'autre côté de la frontière au Venezuela.
Ouais, Marine Normand, envoyée spéciale d'RFI à Cúcuta en Colombie. À noter qu'un autre concert se tient à quelques centaines de mètres de l'autre côté du pont Tienditas, un concert organisé, celui-ci, par le gouvernement Maduro. Pas touche au Venezuela, c'est le slogan. Le gouvernement refuse l'entrée de l'aide humanitaire. Il estime qu'il s'agit d'un prétexte à l'intervention militaire des États-Unis dans le pays. Et puis retenez par ailleurs que des violences ont éclaté à la frontière brésilienne, frontière que le président Nicolas Maduro a fait fermer hier. Au moins 2 personnes sont mortes du côté vénézuélien suite à des heurts avec l'armée.
Le journal en français facile.
Sur Radio France Internationale, il est 4h06 à Pékin, la capitale chinoise, où Mohamed Ben Salman poursuit sa tournée asiatique.
Le prince saoudien est à Pékin. Il y a rencontré le président chinois Xi Jinping, confronté à un froid diplomatique en Occident. MBS, ainsi qu'on l'appelle, entend élargir la coopération avec son principal partenaire commercial, notamment via les nouvelles routes de la soie chinoise. Correspondance à Pékin de Stéphane Lagarde.
Le drapeau vert du royaume saoudien et le rouge de la République populaire de Chine sous les grappes de caméras accrochées aux lampadaires de la place Tiananmen. Un petit tour sur la grande muraille. La réception hier par le vice-premier ministre chinois, Ran Zheng, puis par le président Xi Jinping ce vendredi. Comme pour son père il y a 2 ans, Mohamed Ben Salman a eu droit à tous les honneurs pendant ses 2 jours à Pékin. Les dirigeants chinois et saoudiens ont de grandes ambitions et chacun cherche le soutien de l'autre. L'Arabie saoudite comme tête de pont au Moyen-Orient du projet Ceinture et Route du numéro 1 chinois. La Chine pour soutenir le plan Vision 2030 de l'héritier saoudien qui entend sortir progressivement l'économie du royaume de sa dépendance aux exportations pétrolières. Donnant-donnant, comme aime le répéter la diplomatie chinoise, d'un côté un contrat de 10 milliards de dollars pour la construction d'un complexe de raffinage en Chine, de l'autre le géant chinois des télécoms Huawei qui promet d'investir 20 millions de dollars par an et de créer 10 000 emplois en Arabie Saoudite. Renforcement des échanges commerciaux, culturels et scientifiques. On ne sait pas en revanche si la question des camps de rééducation ouïghours qui fâchent le monde musulman a été abordée entre les 2 dirigeants. Quand le thème a été évoqué par notre confrère de la BBC, la retransmission a été immédiatement interrompue en Chine. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Et le football à présent avec les 8e de finale de la Coupe Europa League.
La petite Coupe d'Europe comme on l'appelle, et le tirage est pour le moins difficile pour le Stade Rennais. Les Bretons qualifiés hier pour la première fois de leur histoire en battant le Betis Séville, qualifié donc pour les 8e de finale et qui hérite des Anglais d'Arsenal, l'un des favoris de la compétition, Frédéric Suto.
Une sacrée affiche, retrouver Arsenal et son attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal et son meneur de jeu allemand Mesut Özil ou encore Petr Cech, le gardien tchèque, qui avait fait le bonheur de Rennes durant 2 saisons il y a 15 ans avant de rejoindre l'Angleterre, Chelsea puis Arsenal. Les Rennais disputeront le match aller à domicile, le retour à l'Emirates Stadium de Londres, des Rennais qui n'auront rien à perdre dans le sillage d'Atem Ben Arfa et Ismail Assar, le Sénégalais. Rennes a montré en 16e de finale contre le Betis Séville, 3-3 à l'aller, succès 3-1 à Séville au retour. Rennes a montré que le club vivait peut-être enfin l'épopée européenne que toute la ville attend depuis des décennies. Pourquoi pas faire aussi bien que l'Olympique de Marseille qui a atteint l'an passé la finale de cette Ligue Europa. Les autres principales affiches de ces 8e de finale. Chelsea retrouvera le Dynamo de Kiev, l'Inter de Milan face à l'Eintracht Francfort, les Italiens de Naples qui ont calé en match de poule de Ligue des Champions et qui ont été reversés en Ligue Europa. Naples sera opposé aux Autrichiens de Salzbourg. L'UFC Séville, 5 fois vainqueur de la compétition depuis 2006, l'UFC Séville retrouvera le Slavia de Prague.
Frédéric Suto a noté que pour ces 2 rencontres, aller et retour entre Arsenal et Rennes, Arsenal sera privé de son attaquant Alexandre Lacazette, suspendu en raison d'un carton rouge. C'est ce qu'a indiqué l'instance disciplinaire de l'UEFA ce vendredi. Et puis c'est aussi une compétition, celle qui couronne les acteurs au sens large du cinéma français. La cérémonie des Césars se tient en ce moment à la salle Playel à Paris avec 2 films dans le rôle du favori désigné, Le Grand Bain et Jusqu'à la Garde, nommés 10 fois chacun.